le moment révolutionnaire de 2010-2011. Et on voit la situation qui s'aggrave d'année en année avec aujourd'hui une répression et une oppression de tous les partis d'opposition, des personnalités politiques qui sont emprisonnées, les médias qui sont muselés, la justice qui est instrumentalisée. Est-ce que cette voix sur la laïcité, est-ce que tu as l'impression qu'elle porte encore un petit peu quelque part en Tunisie, ou alors est-ce qu'elle est complètement occultée, dissoute, ou
Je ne sais pas si elle porte, mais je sais que mes amis se moquent de moi tout le temps. Ouais. Ils me traitent de laïcarde, évidemment.
Ouais.
Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je poursuis mon cap de toute façon. Et puis même si on est deux pelés, trois tondus à dire quelque chose, ben on continuera à le dire parce que c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. Ça, je le pense fermement. Mais quand je dis, moi, c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait qu'il y a des gens qui disent laïcité sans frontières. Je dis non, laïque sans frontières. C'est-à-dire on est des personnes et voilà,
oui,
on est pour ce principe. Oui, pour moi c'est super important. Et quand je dis sans frontières, ça veut dire, quelque part je leur dis c'est sans tabou quand je dis sans frontières. Mm-hmm. C'est pas seulement sans frontières de tous les pays. Bon, c'est vrai que l'intitulé de notre conférence, je l'avais appelé laïque de tous les pays, unissez-vous. Mm-hmm. Donc voilà, c'était évidemment en référence à travailleurs de tous les pays, prolétaires de tous les pays.
Ouais.
Unissez-vous. Et aujourd'hui, ce que je dis, par exemple pour notre prochain débat, je dis, on essaye de faire un spot, j'espère qu'on va réussir à le faire, c'est laïcité pour toutes, enfin tous,
ouais.
avec l'écriture inclusive, virgule, vraiment, point d'interrogation. Voilà, parce que je veux interroger la France et les Français sur est-ce qu'ils pensent vraiment que aujourd'hui on traite tous les citoyens de la même façon quand il s'agit de religion.
Je vais rappeler le site. Tu vas rappeler le site sur lequel on peut avoir des informations sur Laïcs sans frontières. Il y a un site internet, je crois.
Oui, laïcssansfrontières.org, je crois.
Tout attaché. Hein.
Oui.
On peut voir tes films encore. Est-ce qu'on peut les trouver?
Alors, je sais que franchement, même moi, je suis surprise de voir que il y en a qui se sont permis de les mettre gratuitement sur YouTube.
Bon.
Et puis, sinon,
c'est pirate.
Oui, mais enfin, de toute façon, moi, comme je dis toujours, je me pirate moi-même. Donc, si vous voulez vraiment les voir, vous me contactez sur Instagram, Nadia Alfani, et je vous envoie un lien.
D'accord. Donc, il y a Laïcité, Inch'Allah.
Il y a Ouled Lénine, qui est sur mon père.
Les enfants de Lénine,
Les enfants de Lénine. Mais il s'appelle Ouled Lénine, en français aussi. Sur mon père, qui était un des dirigeants du Parti communiste tunisien dans les années 60-70. Il y a le dernier film que j'ai fait, Capital Parenthèse, qui était au moment du Covid, qui est l'un des rares que j'ai fait en France, on va dire. Il y a il y a même pas mal qui raconte ce que les islamistes m'ont fait et comment j'ai réagi en leur répondant d'une manière cinématographique. Et sinon, c'est Bedouin Hacker, c'est mon premier long métrage de fiction. Et là, je suis en développement, on va dire, avec des producteurs pour mon prochain projet qui va s'appeler Tunis for Forever post-mortem.
Merci à toi, Nadia.
Merci.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des travailleurs du commerce et des industries de l'alimentation qui, en fonction de l'actualité politique, des commémorations, des luttes sociales ou de rencontres de personnes exceptionnelles, animant des projets de société qui peuvent être une alternative altruiste et autogestionnaire à la société de classe dans laquelle nous nous faisons exploiter, l'animant direct chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, sans retenue ni complaisance sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme réuni.
Édito du Monde Merveilleux du Travail du lundi 19 mai 2025 du calendrier grégorien, équivalent au 30 floréal du calendrier républicain révolutionnaire français, officiellement dénommé jour de la houlette. J'ai rien sur la houlette aujourd'hui. Deux naissances ont retenu mon attention ce 19 mai, mais c'était en 1925. Malcolm Little, plus connu sous le nom de Malcolm X, et Salosar, non ? Plus connu sous le nom de Pol Pot, voilà. Chef des Khmers rouges cambodgiens. Voilà, on fait ce qu'on veut de cette info. Et qu'importe, puisque le 5 mai, donc le dernier, dernière émission, précédente émission, j'annonçais la 127e année de naissance de Karl Marx. Personne ne m'a repris. Ça fait en fait 207 ans, et non pas 127. Alors, bon, hormis le fait que je ne sais pas compter, je peux affirmer que autour de cette table, personne ne m'écoute, n'est-ce pas ?
Oh, c'est bien vrai.
Notre invité ce soir est la star, comme dit Junior, Monique Pinson-Charlot, auteur ou autrice.
Comme tu veux.
Bah ouais. De Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique aux éditions textuelles. Ça va balancer grave. Il y en aura pour tout le monde. Les lobbies, les patrons, l'extrême droite, Macron et ses gouvernements, les institutions, administration étatique et l'incitation à la désobéissance civile. J'arrête, j'étouffe, je suis submergé par le CO2. Notre émission est pile poil dans la continuité de l'émission précédente, dont contre les ZFE, zones à faible émission, que l'on nous présente comme une alternative au réchauffement climatique et à la pollution en centre-ville, alors que ce ne sont que des mesures liberticides qui ne tiennent pas compte des réalités des déplacements des plus pauvres d'entre nous. C'est mon point de vue. Ce soir, on déplace le problème du local au national, voire mondial. Donc c'est Bénédicte qui assure la technique régie et lancera les musiques qui soutiendront les propos de la thématique. Eric nous expliquera dans un sens calcul mathématique pourquoi le ruissellement par le haut est inversement proportionnel au prélèvement à la source de l'infortuné imposable. Vas-y la régie, envoie la monnaie.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète, niquons la planète. Niquons la planète. objectif en tête, niquons la planète,
faisons l'amour à la terre, des tonnes de pétrole dans la mer, du CO2 dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire. Un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète. C'est ma raison d'être.
J'arrive pas à me relire.
Bon, Beko, c'était.
Eh ben, oui, voilà. Hein, arrête de parler à ma place. C'est incroyable, ça. Alors, c'était Niquons la planète de HK Les Saltimbanques dans l'émission du Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 MHz.
C'est pas parce qu'il n'y a pas 672 pages que ça fait pas mal. Hein. Bon. Oh.
Oui, alors.
Ben voilà, justement, introduisons les riches contre la planète.
Voilà, présente-nous l'invité.
Monique Pinson-Charlot, mais qui, comment présenter Monique Pinson-Charlot, sociologue?
Oui, ancienne directrice de recherche au CNRS, qui, avec son mari, a ouvert un véritable autoroute de recherche depuis bientôt 40 ans. 86, on a commencé. Donc, on est, oui, c'est ça, bientôt 40 ans de recherche sur la même classe sociale, au sommet des richesses et des pouvoirs, l'oligarchie aujourd'hui. Pourquoi j'emploie le terme d'oligarchie? Parce qu'aujourd'hui, ils sont au sommet de tous les secteurs de l'activité économique et sociale, que cela relève des usines, des entreprises, que cela relève de la santé, de l'enseignement, c'est-à-dire des communs, que cela relève du climat, tout a vocation à être financiarisé et à rapporter des dividendes et possiblement des rachats d'actions.
Et c'est aussi l'oligarchie, et on le voit dans l'ouvrage, on en a un aperçu dans l'ouvrage, c'est aussi, ils sont à la tête de la culture, ils imposent aussi la culture, à travers des mécanismes économiques, qui rapportent aussi beaucoup d'argent, et puis ils sont aussi à la tête de tout ce qui est idéologique, tout ce qui est politique, parce que finalement ils se nourrissent de tout pour multiplier leur pouvoir et leur richesse.
Exactement, exactement. Et du coup, ça transforme les citoyens en individus négatifs, en individus qui ne maîtrisent plus leur vie. Comment il appelait Robert Castel, l'individualisme négatif. Hein ? Eh bien, et c'est ça qui est terrible dans la lutte que nous avons à mener aujourd'hui. Et du coup, les quelques solutions que j'ai essayé de proposer, compte tenu de la gravité de la pensée unique et du fait que nos cerveaux sont littéralement tétanisés par une pensée qui est toujours une pensée substantialiste et non relationnelle. Alors que dans la grande bourgeoisie, dans l'oligarchie, la pensée, elle est toujours relationnelle. Ils mettent toujours tous les éléments en relation les uns avec les autres. Tandis que quand il s'agit de nous, au contraire, ils nous donnent le saucisson découpé en tranches de saucisson, et sans qu'il y ait de lien qui soit fait entre les faits les uns avec les autres. Et du coup, ça crée une forme de sidération, un sentiment d'impuissance, quelque chose d'extrêmement sclérosant, d'extrêmement déshumanisant pour dans notre façon au moins de penser.
La force de l'oligarchie, c'est justement d'être très unis, très solidaires. Alors c'est pas qu'ils s'aiment, hein, c'est que ils ont des intérêts communs et leurs échanges à tout point de vue très très forts leur permettent de dominer l'autre strate de la société, c'est-à-dire nous. et qui nous livre ce saucissonnage, en fait, ça nous force, nous, les qui n'avons ni le temps, parce qu'on passe notre temps au travail, hein, enfin, surtout dans le commerce, hein, on passe notre temps à faire des choses qui n'ont aucun sens, enfin, abrutissantes et aliénantes, et on n'a pas le... On est peu nombreux à avoir cette énergie et puis ces clés pour essayer de faire de ces tranches de saucisson un saucisson, et de comprendre. Et ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce qu'on appelle, nous, ici, mon milieu du travail, le militantisme. Hein, ça prend de l'énergie, du temps, et chose qui est un luxe, enfin, pour les ouvriers que nous sommes, quoi. Donc ça explique aussi le pouvoir qu'ils exercent.
Bien sûr.
Avec cette force particulière. Un titre, Les riches contre la planète, un titre d'actualité, parce qu'on est au plein cœur de des questions environnementales, dont on a déjà parlé il y a 15 jours, mais pas que, ça va au-delà, hein, comme on disait hors antenne, c'est le vivre, pas vivre, réellement vivre en étant bien tous, bien vivre tous, quoi. Et ça, on n'y est pas. Et le sous-titre me paraît important parce que ça revient à ce que tu as dit, c'est une synthèse de ce que tu as dit à l'instant, c'est la violence oligarchique et chaos climatique. Mmh. Et là, on a un résumé du bouquin. Mmh. Donc l'émission est terminée, au revoir.
non, parce que le rôle de la sociologie, c'est précisément de bien dévoiler, pièce après pièce, les roueries et les rouages de cette oligarchie. Donc là, pour ce soir, on a du boulot.
Et qu'est-ce que c'est que ces riches contre la planète? Pourquoi sont-ils, pourrais-tu nous dire pourquoi ils sont contre la planète? Sans dévoiler le contenu du livre que nous vous invitons tous à acheter et à lire.
Ben c'est de fait, c'est pas qu'ils soient contre la planète, c'est que le système capitaliste sur lequel sont basés leurs privilèges, c'est-à-dire que ce sont des dynasties familiales qui, de siècle en siècle, de quartier de bourgeoisie en quartier de noblesse, se transmettent les titres de propriété, sans ruissellement jamais auprès des classes moyennes et des classes populaires. Donc, donc il faut toujours réfléchir quand on est sociologue en se disant, alors nous par exemple on avait décidé avec Michel de faire un livre sur juste une famille pour bien comprendre qu'est-ce que c'était qu'une dynastie. Alors évidemment on a choisi les Rothschild et on a fait notre livre qui a été publié aux éditions La Dispute et là on voyait bien l'arbitraire qui est le fondateur de la dynastie Rothschild. Donc, nous on a décidé que c'était Meyer Amschel à la fin du XVIIIe siècle alors qu'il était enfermé dans le ghetto de Francfort qui le premier a senti l'intérêt de pouvoir faire de l'argent en prêtant de l'argent au prince à un moment où pour les catholiques c'était interdit par la religion, disons. Et puis petit à petit voilà s'est constituée une dynastie familiale. Et comment, dans ce livre, on montre, avec tous les noms, depuis donc Meyer Amschel Rothschild, qui a eu 10 enfants, 5 filles, mais ça on n'en parle pas, elles ne font pas partie de la généalogie, et 5 garçons, c'est les 5 flèches Rothschild. Il y en a 4 qui se sont mariés et qui ont eu des enfants, un autre qui est resté tout seul, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, et qui ont donné 14 petits-enfants à Meyer Amschel. Et sur les 19 petits-enfants, et sur les 19 petits-enfants, 14 se sont mariés entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont fondé une dynastie sur des liens familiaux extrêmement puissants qui ont conforté la fortune. Alors après, à la génération suivante, il y a eu encore un oncle qui a épousé sa nièce, il y a eu encore des choses comme ça. Mais je veux dire, après, ça s'est élargi une fois que la fortune est bien consolidée. Alors, je ne sais plus pourquoi je raconte tout ça. Tu me suis ?
Oui, jusque-là, oui.
Oui, jusque-là. Et donc, pour montrer, pour empêcher tout ruissellement. C'est ça. Garder tous les privilèges et l'arbitraire de ces privilèges, l'arbitraire qui n'est fondé que sur le fait que sous le système capitaliste, les titres de propriété permettent de piller, d'exploiter toutes les formes du vivant, humain et non humain. Et nous sommes là, aujourd'hui, précisément, à ce rendez-vous-là de notre humanité avec l'habitabilité de la planète. Ça n'est pas un anthropocène. Tout ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'il s'agit bien d'un capitalocène. Et les mots, lorsqu'on se trouve, les mots M-O-T-S, lorsqu'on se trouve avec des mots M-A-U-X aussi puissants, aussi forts, aussi destructeurs que ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle de la planète et avec des retombées encore plus fortes pour les pays les plus pauvres que pour les pays les plus riches, pour diverses raisons qu'on pourra peut-être voir ce soir, c'est de la responsabilité des sociologues que précisément de dévoiler tout ce que cette oligarchie s'emploie à cacher sous diverses formes, mais le faire pièce après pièce, thème après thème, tel a été mon pari fou pour réaliser ce livre toute seule. Et je le dis, c'est un livre que j'ai écrit pendant la maladie de Michel, parce que je ne pouvant pas voyager, ne pouvant pas le quitter puisqu'il était malade, du coup, je me suis dit, bah, tu vas travailler avec uniquement des livres, uniquement avec des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation. Et je l'ai fait comme ça.
Bah, c'est plutôt une belle réussite, en tout cas.
J'ai fait de nécessité vertu.
Alors, c'est vrai que c'est l'anthropocène, c'est un thème qui a été à la mode il y a quelques années déjà, pour dire qu'on était responsable collectivement des nuisances portées, voire des destructions irréversibles portées à notre environnement et au vivant. En fait, moi, j'avais pensé, en lisant le livre, avant de rebondir sur capitalocène, c'est vrai que c'est plus idéologique quand même, capitalocène, mais en même temps plus vrai. Pour moi, c'est un entrepôt, sans jeu de mots. La terre, le vivant, c'est une espèce d'entrepôt pour les très riches, où ils puisent, sans retenue. Et on voit dans un des chapitres, quand tu traites de l'Afrique, où carrément, ils privatisent des aires de vie.
Des réserves.
Des réserves entières de vivants.
Oui, de vivants.
En chassant les populations qui se retrouvent démunies, donc plus de travail, plus de ressources, plus rien. Et là, c'est... Et pour le coup, moi j'associe ça à du terrorisme. C'est une forme de terrorisme, parce que ces populations, ça parle dans le livre, ces populations, elles sont désemparées, tu disais tout à l'heure, complètement déstabilisées.
Et surtout, elles perdent tous leurs moyens, à la fois de solidarité, de famille, de reproduction, et puis de survie, de nourriture, tout simplement. Et donc, alors, si tu veux... Anthropocène, donc je vois que ça a l'air de te gêner parce que tu pensais que les petits gestes étaient importants, et tu n'as pas tort quand tu dis ça. C'est-à-dire que moi aussi, je suis sûre que ça ne peut nous faire que du bien, que de moins consommer, de moins gaspiller, d'être lucide sur notre finitude, parce que derrière toute l'histoire de la consommation, de la richesse et tout ça, c'est une façon de fuir la finitude humaine. Et c'est tellement plus sain d'être conscient que l'on est né par hasard et que l'on va mourir d'un jour à l'autre, à tout moment en tout cas, et que ça c'est une certitude, tandis que dans l'oligarchie, eux, ils sont bien plus malins que ça. Eux, ils ont construit quelque chose que nous avons appelé à la suite de Bourdieu l'immortalité symbolique. C'est-à-dire que eux, avec l'histoire des dynasties familiales avec laquelle j'ai commencé cette émission, eux, ils entrent dans le temps long de la passation des richesses et des pouvoirs de génération en génération. Autrement dit, on se retrouve avec le roi est mort. Vive le roi est mort, la finitude du roi n'est rien par rapport à la continuité dynastique. Et ces familles-là, ça a été une découverte pour nous tout à fait importante dans, nos, dans notre ethnologie, dans notre anthropologie, puisqu'on a vraiment été tout contre les riches, tout contre. Et du coup, on a bien compris comment ça fonctionnait et comment ils s'inscrivaient, eux. Alors, ils pouvaient croire aussi dans un hypothétique au-delà, mais quand même, l'immortalité symbolique, c'était quelque chose de plus costaud, de plus sûr, qui faisait que finalement, ils se rassuraient en se disant « Nous ne sommes pas des propriétaires, les titres de propriété, nous ne sommes que des usufruitiers, puisque nous en héritons, nous devons être dignes de cet héritage ». Nous en profitons, mais nous devons essayer de faire augmenter le patrimoine. Et puis, nous le restituons aux générations suivantes. Donc, il y a tout un récit imaginaire construit qui est quand même extrêmement favorable pour eux. Et tandis que nous, on se retrouve toujours à galoper derrière avec de pauvres imaginaires, toujours un peu tristounés, quoi.
Mais ça fait penser à une petite phrase, une petite que ressortent mes collègues souvent, c'est quand les plus précaires veulent s'enrichir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérimaires, donc qui cumulent les heures, et effectivement, il y a toujours un qui sort, mais tu vas être le plus riche du cimetière, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Mais c'est vrai qu'ils ont pas cette mes collègues n'ont pas en tête effectivement qu'il y a chez ceux qui s'enrichissent, mais qui s'enrichissent vraiment, pas l'intérimaire qui essaye de joindre les deux bouts en cumulant les emplois. Il y a chez les, ils n'imaginent pas que chez les riches effectivement il y a cette volonté de perpétuer, de créer une dynastie, de perpétuer la richesse et de transmettre un bien. Et donc effectivement il y a quand même, puisque tu faisais le tout à l'heure, tu parlais des catholiques pour lesquels l'argent devait pas, c'était pas beau, donc on laissait ça effectivement à d'autres communautés ou bref, de pouvoir faire de la spéculation. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave.
Ah ben si, alors attends.
Je me suis perdu.
Je fais tout le temps comme ça. Moi, je fais tout le temps comme ça. Donc, pauvre Eric. On était bien dans le ruissellement et la captation des richesses. Et donc, je finis pour toi. Hein.
Ouais,
et donc, on n'est pas du tout dans un monde d'inégalité. C'est un fossé qui nous sépare.
Ah oui.
C'est un fossé qui nous sépare. Parce que ils se construisent, ils sont construits de génération en génération dans leur excellence, dans leur supériorité, et ça va très très loin. Et tout notre travail le montre que d'abord ils vivent toujours entre eux dans les beaux quartiers, ils vivent toujours entre eux dans les cercles, dans toute forme de au niveau international, les Bilderberg, les Davos, les trilatérales, etc. Et ils ne se lassent pas de leurs semblables. Ils ne se lassent pas de cette forme de communisme, de luxe et de pouvoir. Parce qu'ils sont toujours dans des cadres extraordinaires. Ils sont toujours avec des moyens financiers, des champagnes incroyables, des mets les plus extraordinaires. Et puis, il n'y a pas de frontières pour eux. Ils sont véritablement des membres d'une classe sociale au sens marxiste et bourdieusien du terme. Donc, ils ne se pensent pas comme des individus, mais comme les membres d'un collectif dont ils doivent être solidaires. Et cette force-là, ce que nous avons découvert, pas vraiment découvert, mais vécu dans nos chairs, ce qui change tout, c'est une sacrée expérience sociologique que nous avons vécue et que j'essaye de continuer à transmettre malgré la disparition de Michel, parce que je me dis il n'y a pas tant que ça de gens qui ont eu la chance de pouvoir côtoyer le fonctionnement de cette classe dans sa chair et son corps et son cœur.
Et d'où un des chapitres sur la nécessaire coordination des luttes des pauvres, enfin les pauvres de nous, quoi, face à l'unité des riches. Parce que c'est vrai que nous, on est éparpillés, c'est un peu comme le saucisson de tout à l'heure. Hein.
Oui,
ils nous transmettent des morceaux de saucisson, mais on est aussi des morceaux de saucisson. Et eux sont un saucisson entier. Donc, effectivement, on est plus enclin à perdre, malheureusement, dans ce rapport de force inégal. Et les victoires sont dérisoires. Enfin, je veux dire,
Surtout
dans le monde du travail, en tout cas.
Pour terminer, en fait, l'idée qui m'est revenue à cause de ce que... c'est surtout qu'ils nous imposent une certaine vision qu'ils ne partagent pas, mais qui nous font dire, en fin de compte, l'argent, c'est pas bien, c'est sale. C'est comme si il fallait qu'on apprenne à se priver. Enfin, quand je dis nous, c'est la classe ouvrière, je vais l'appeler comme ça, et qu'elle accepte de se priver un petit peu d'argent, et puis qu'on se contente de ce qu'on a. Des miettes. Et c'est ça qui est fort, c'est que et donc ça transparaît dans les petites réflexions que peuvent se faire les collègues entre eux. Je reprends cette phrase, tu vas pas être le plus riche du cimetière, donc en accumulant, quoi. Ils arrivent à se satisfaire de peu. Alors je dis pas qu'il faut gagner de l'argent, parce que mon but, moi, c'est, en tant que syndicaliste révolutionnaire, faut abolir l'argent. On abolit le salariat, le patronat, l'État et la monétarisation aussi. D'autres rapports de... Mais quand même, ils ont réussi à nous mettre dans le crâne, à nous faire admettre des idées qu'eux ne vivent pas, en fait. Enfin, des idées.
Oui. C'est pour ça que j'ai dans la coordination des luttes dont on va parler, j'ai introduit l'idée de la psychothérapie institutionnelle. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont très importantes et dont on parle pas tellement dans la mouvance militante. Et pourtant, ça existe depuis longtemps, que de se dire, d'une part, alors pourquoi on échoue tout le temps, nous ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on est très nombreux, hein, mais en même temps, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Donc, il y a cette absurdité totale qui fait qu'on ne comprend pas du tout comment c'est possible qu'une petite poignée de parasites qui sont en train de détruire, de mettre à mal, en tout cas, l'habitabilité de la planète, comment se fait-il que, là, on est à un rendez-vous historique, comment se fait-il que rien ne change dans notre façon d'être. Donc là, dans ce petit livre, je l'ai fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de bienveillance, beaucoup de courtoisie, mais j'ai dit, ça suffit, en disant, les choses, je reprends la maxime de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ensuite, je me suis inspirée d'une phrase d'un sociologue que j'aime bien, Luc Boltanski, dans son livre avec Eve Capiello sur le nouvel esprit du capitalisme. Quand il ouvre ce livre, si ma mémoire est bonne, en tout cas c'est ce que j'ai retenu, ce n'est pas la crise du capitalisme qui est un problème, c'est la crise de la critique du capitalisme. Et ça m'a vraiment inspirée, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et comme je suis lozérienne, que je suis née en Lozère et que j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 18 ans en Lozère, et que mon père était procureur de la République, et que du coup, au déjeuner familial, il y avait François Toscaïès qui venait à la maison, et que nous, les quatre enfants Charlot, on n'avait pas le droit de parler, donc on avait le droit d'écouter, on ne nous mettait pas des bouchons dans les oreilles. Et j'ai compris qu'il y avait des gens comme ce psychiatre qui était condamné à mort par Franco et qui avait été, qui était un, je ne sais pas comment dire, un révolutionnaire de l'autogestion, ce qu'il est arrivé à faire aussi bien dans un camp de concentration dans le Gard, où il était emprisonné après l'échec des républicains espagnols face aux troupes de Franco en 1936. Donc là, ils étaient tous engrillagés, mourant de faim.
La retirada.
Voilà, c'est ça. Et lui, il a su transformer ce camp de concentration en un espace de liberté où finalement chacun est arrivé à trouver sa place et à s'entraider et à se sauver. Et du coup, le préfet de la Lozère, qui était propriétaire du plus grand, dont la Lozère, le département de la Lozère, était le propriétaire du plus grand hôpital psychiatrique de France à cette époque-là, avec 1000 fous qui étaient tous cadenassés, enfermés, sous contention et qui mouraient de faim. Le préfet de Lozère a demandé à mon père, est-ce que vous seriez d'accord pour que je le sorte de son camp de concentration, puis qu'il devienne, je le nomme, directeur du centre de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole. Et ça, sur le coup, je ne peux pas dire que ça m'a, j'ai compris tout ce qui se passait, mais je sais que je regardais ce type et je me disais, putain de Dieu, si ça pouvait être mon père, ça serait trop, trop bien, quoi. C'était vraiment, je sentais quelque chose qui m'a, je pense, et ça s'est révélé au fur et à mesure de mes réflexions, qu'on pouvait très, que c'était possible, quand on le voulait, réaliser des choses en autogestion, des choses où on sauve la vie, où on introduit l'art. Paul Éluard est venu, c'est la poésie, Paul Éluard est venu s'installer à Saint-Alban, Jean Dubuffet est venu créer l'art brut à Saint-Alban, Frantz Fanon est venu se former à Saint-Alban pour partir ensuite en Algérie faire la même chose à Blida, où il a été nommé encore en pleine guerre d'Algérie dans les années 60. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs et auditrices à aller voir le film sur Frantz Fanon, parce que dès le départ, il parle de cette expérience qu'il a vécue pendant plusieurs mois auprès de ce psychiatre François Toscaïès, qui a su réaliser des choses absolument extraordinaires. Et du coup, la maxime de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oh, vous me regardez tous
osons,
les deux.
Osons.
Tu prêches des convaincus, qui sommes des syndicalistes révolutionnaires.
Ah ben, excuse-moi.
Je peux te dire que c'est pas la doctrine la plus partagée en France, ni nulle part ailleurs.
Ouais, malheureusement. oui, c'était assez. Alors moi, j'ai pas versé dans le monde de la psychanalyse, de la psychiatrie, mais oui, l'expérience était assez quand même assez innovante parce qu'il a introduit en fait de la liberté. Oui. De la liberté dans un milieu qui est un milieu, enfin le milieu de l'aliénation, c'est un milieu carcéral, hein, comme tu l'as rappelé, pour et puis parce qu'on n'a pas d'argent à mettre dans la les thérapies ou je ne sais quoi.
On le but, c'est pas de traiter non plus, voilà. C'est d'isoler. En
fin exactement.
C'est un petit peu ça.
Même d'enfermer,
ouais.
De contraindre.
C'est ça.
De... tandis que là, il est arrivé à soigner non seulement l'institution, mais en soignant l'institution, il a soigné les médecins, il a soigné les malades, et en fait, il a soigné la vie elle-même. Mmh. Et donc, pour nous, aujourd'hui, qui sommes confrontés à ce chaos climatique, à quelque chose d'incroyable, nous devons prendre justement le temps d'échanger, même si on peut juger absurde tel ou tel point de vue, mais que c'est le temps de se poser pour faire de la psychothérapie institutionnelle par rapport...
Oui,
par rapport aux partis politiques, par rapport à l'incohérence, au fond, notre militantisme, trop souvent, peut-être pas le vôtre, peut-être que vous êtes des dieux sur terre, je suis d'accord, mais...
lui,
oui, comme moi.
Il faut vraiment qu'on se regarde, qu'on s'examine et qu'on se dise c'est pas possible, on peut pas être concurrents les uns avec les autres, entre partis, entre syndicats, entre militants, on doit s'écouter comme on le fait ce soir, même si je monopolise la parole et que vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais vous allez pouvoir le dire.
On n'est pas d'accord que tu monopolises la parole, mais tu peux dire ce que tu veux.
La caisse pour pas un rond. On veut de la galette, des pépites, des pépettes. On veut des gros lots, on veut les bons numéros. On veut faire de bonnes actions, celles qui rapportent gros. On veut des dollars, des liasses, des liards. On veut plus et encore plus pour être riche comme Crésus. On veut des sous pour faire les fous. Qui veut gagner des millions, hey.
C'est nous.
C'est l'argent, l'argent qui nous fait vibrer. On est mal. Money, 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 par le bout du nez.
ça va ma chère, que ces perles sont belles. On ne veut pas savoir si c'est dollar ou du cochon, pourvu que les dollars finissent dans notre cochon. En affaires, y'a pas de sentiments, y'a que des centimes. Tout ce qui compte c'est la thune, les bonus, les primes. On veut des sous pour faire les fous. Qui veut gagner les millions, hey.
C'est nous.
C'est l'argent, l'argent qui nous fait vibrer. On est money, money, money par le bon dîner. L'argent, l'argent qui nous fait trembler. On est money, money, money par le bon dîner. À moi, les petits 100 francs, y'a que le pèse qui nous apaise, y'a que le flouze qui nous allouse. On veut des grosses coupures, même si ça fait très mal. On veut pouvoir plumer toutes les oies du capital. On veut des sous pour faire les fous. Qui veut gagner les millions?
C'est nous.
C'est l'argent, l'argent qui nous fait vibrer. On est mal et mal et mal. L'argent, l'argent qui nous fait trembler. On est money, money, money par le bout du nez. C'est l'argent, l'argent qui nous fait vibrer. On est money, money, money par le bout du nez. L'argent, l'argent qui nous fait trembler. On est money, money, money par le bout du nez.
Money, 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 money,
toi qui décides.
Si. Alors, vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire, 89.4 MHz, et c'était Stella avec Le Plus Beau Jour de Magie.
Oui, ça, c'est le nom de l'album, ça.
Bon, bah, pour vivre heureux, vivons cash.
Voilà.
Voilà.
Et nous retrouvons Monique Pinson-Charlot à l'occasion de la sortie de son livre, son dernier livre, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, Les riches contre la planète, sous-titré Violence oligarchique et chaos climatique. Je voudrais revenir sur ce que tu disais juste avant la coupure musicale. En fait, c'est le. Ce qu'on n'a pas. Moi, je vois ça, c'est le temps de se poser pour réfléchir. Et même moi, je fais ce constat, hein. Là, j'arrive. Enfin, tout à l'heure, je suis arrivé. C'est pas, j'arrive pas au dernier moment parce que c'est au dernier moment, mais c'est parce que mon emploi, avec toutes les tâches de misère inutiles autant qu'absurdes, nécessite que je passe du temps sur mon lieu de travail. Et il me reste juste le temps d'arriver ici à l'ouverture de l'émission.
L'ouverture du micro même, on peut dire.
Du micro, parfois. et c'est ça, c'est le. Et là, je crois que c'est fondamental. Et puis plus je me rends compte. Puis c'est pas la première fois que je m'en rends compte, mais les années passent et j'ai ça me frustre et ça me rend même complètement malade parfois de se dire que je peux pas me poser. Et réfléchir à ce que je suis, ce que je veux faire, mais même dans l'organisation simple, hein, on vit comme ça sur des automatismes, et puis on saute d'une action à l'autre, parce que on est contraint par le temps qui est pas commandé par nous, mais qui est commandé par un autre, alors non seulement c'est frustrant, mais ça rend dingue, quoi, ça rend malade, quoi. ça rend malade et ça rend inefficace, surtout tu sais, dans la coordination des luttes. Moi, en tout cas, je parle pour moi, la coordination des luttes, ça nécessite, nous, en tout cas pour les luttes, si on les veut, on les veut intelligentes, on les veut collectives, on les veut... je suis pas hostile à aller voir Pierre-Paul Jacques pour discuter, même si on n'est pas d'accord sur tout, comme tu dis. Mais il y a un moment donné, on peut se mettre d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire... le vivant,
c'est
voilà,
l'essentiel.
Ah, ah bah, sauver la planète,
le vivre ensemble bien, oui. C'est-à-dire que moi je veux pas travailler 50 heures par jour, je veux pas travailler pour un patron
50 heures par jour,
par semaine par jour, par semaine, je veux pas travailler pour un patron. En plus mon expérience, j'ai un petit peu de déroulé du cap, donc l'expérience que j'ai de salarié, elle est pas bonne, quoi.
Mais c'est bien que tu dises tout ça, je vais te dire, parce que tu as raison de dire ça.
Oui, mais c'est.
Alors, si tu
une
veux.
Fois que je l'ai dit.
Alors je vais te dire ce que j'en fais, moi. L'autre, c'est pareil, sûrement.
L'autre, c'est moi. L'autre, gros.
Donc, dans la mobilisation de la classe dominante, c'est quand même du pain béni pour eux. Parce qu'ils ont. En fait, ils sont toujours en train d'être dans de la sociabilité mondaine, d'être dans des fêtes, dans des endroits luxueux, dans des avec beaucoup quand même de joie, de facilité. Et ils ont effectivement, comme tu l'as dit très bien avec ton témoignage, eux, ils ont vraiment le temps d'être posés et d'être toujours entre eux, donc... Bien sûr qu'ils boivent, ils mangent des bonnes choses et tout ça, mais en même temps, ils sont toujours en train d'échanger, ils sont toujours en train de discuter. Est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils se distraient? Pour eux, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ils sont toujours dans le saucisson dans son entièreté. Hein, tandis que, comme tu l'as décrit, nous, on est toujours avec des emplois du temps coupés. Et du coup, eux... Ils sont toujours en train... Il y a beaucoup de concurrence. Vous avez entendu parler de la querelle entre Bernard Arnault et François Pinault au sujet, par exemple, du rachat de Gouchy. C'est allé très, très loin. Et il a fallu... Ils ont envoyé l'un des leurs pour trouver une solution. Toujours, on trouve des solutions pour, quand ça va trop loin, que ça risque d'être négatif pour leur classe, ils trouvent une solution. Et donc, eux, ils sont toujours en train de coordonner... Ils ont toujours des longueurs d'avance parce qu'ils sont mobilisés. Alors, je le décris pour le GIEC, puis dans tous les domaines. Et en plus, ils coordonnent sans arrêt leur lutte. Chaque individu de cette classe doit défendre au plus haut niveau les intérêts de sa classe. Et après, chaque individu, alors par exemple la famille Rothschild, puisqu'on a fait un livre dessus, ben si vous êtes passionné par la finance, vous avez le choix entre la finance britannique, la finance suisse, la finance française pour vous insérer dans la famille. Si vous êtes passionné de chasse à cours, ben vous créez l'équipage de chasse à cours le plus renommé de France. Si vous êtes passionné de vin, ben vous faites du bon mouton Rothschild. Et puis tout se coordonne dans un, Bourdieu appelait ça une orchestration sans chef d'orchestre. Et c'est puissant. C'est la classe qui est mobilisée. Il n'y a pas de chef. C'est chacun.
Il y a effectivement un esprit de corps qu'on ne retrouve pas dans la classe ouvrière.
Esprit de classe qui a disparu. Ouais, qui a disparu du bon ouvrier. Quoi.
Ouais. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qu'Élisée Reclus fait apparaître dans ses bouquins, cet esprit de corps justement de la classe bourgeoise. Et c'est vrai que, alors effectivement, la classe ouvrière, elle est censée avoir des outils, entre autres les syndicats. Pour nous, enfin, tout ce qui nous intéresse, nous, c'est là où on agit, c'est dans les syndicats. Mais c'est vrai que la classe bourgeoise. Et ceux, les gouvernements qui la soutiennent, parce que c'est comme ça que je prends les choses, ont réussi en fait à diviser justement le syndicalisme en créant plusieurs confédérations, plusieurs syndicats, et en divisant à chaque fois. Donc effectivement, c'est...
Donc à nous. Alors, vous, peut-être que vous n'avez pas le temps, mais nous, quand on est chercheur au CNRS, qu'on a la chance d'avoir ce statut-là, Vous pouvez vous imaginer ce que ça peut représenter. C'est énorme. C'est une joie avec Michel. En plus, on a été recrutés le même jour. On est parti le même jour à la retraite. Toujours 37 ans dans le même laboratoire. On a travaillé pratiquement toujours ensemble. Et, mais ça, c'est nous qui l'avons construit. Dans une forme de désobéissance institutionnelle. Parce qu'en fait, la classe oligarchique n'a pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique. C'est pas que ce soit interdit dans des textes, mais académiquement, ça n'est pas recevable. Hein, on devient militant dès qu'on travaille. Vous voyez, on ne respecte plus les lois objectives de la science. Donc ça, c'est tout. Nous, on a dit, vous pensez ce que vous voulez, nous, on fait ce qu'on veut. Et puis, on s'est mis un petit peu en marge, et puis on a travaillé tous les deux. Et puis, au final, quand on est parti à la retraite, on nous a simplement dit, oui, ben, le CNRS, en termes de coûts-bénéfices, s'y retrouve avec vous, mais sachez que vous ne ferez jamais jurisprudence.
Mais c'est intéressant. Alors, loi objective, c'est loi des objectifs. Des objectifs du CNRS, hein. C'est pas une loi objective
oui,
au sens
sûr.
D'objectiver. Hein.
Bien sûr.
Alors c'est intéressant parce que quand on est en fait quand on essaie de prendre son autonomie dans le monde du travail. Alors moi je le vois. Hein, on est tout de suite rattrapé par un supérieur, hein, je disais les N plus 1, plus 2, plus 12 au cube, enfin bref, toutes sortes de pour moi, c'est, en plus, ils sont nuls, quoi, tout, enfin, les miens sont nuls, quoi, je le dis, mais c'est vrai, en plus, ils sont nuls. Mais par contre, ils ont le pouvoir, puisqu'ils sont au-dessus. Ils ont c'est le lien de subordination, c'est un truc qui est terrible, ça, dans le monde du travail, hein, puis c'est codifié. C'est codifié, c'est-à-dire qu'on peut pas.
Oui, c'est une aliénation totalement institutionnalisée.
Voilà. Et du coup, dès qu'on prend, parce que alors c'est plutôt une danse, j'allais dire culturelle chez nous, hein, avec vos camarades, dès qu'on prend de l'autonomie, tout de suite, il y a quelqu'un à un moment donné qui va réagir et tout de suite nous demander de, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, de alors gentiment, parce que voilà, dans l'entreprise où je bosse, c'est pas des sauvages non plus, hein. Il y a des entreprises où c'est terrible, hein, les retours de flammes. Mais là, non. Mais c'est fait. Et c'est fait systématiquement. C'est-à-dire qu'on recadre, on recadre. Comme un, voilà, il faut pas que ça dépasse. Il faut pas qu'on pense ce qu'on fait, qu'on pense ce qu'on est. Et que surtout qu'on apporte quoi que ce soit d'autre que ce qui nous est demandé.
Voilà.
Et on multiplie les chartes, les comment ça s'appelle, les, tu sais, les le fameux le ah, ce pourquoi on a travaillé les l'automne dernier,
les entretiens annuels, non
non non non, les ah, bref, Calliope. Donc une norme qualité qui en fait n'est pas une norme qualité. Parce qu'ils s'en fichent de cette norme de qualité au sens de qualité, c'est-à-dire de produire du bien et du bien-être. Ce qu'ils veulent, c'est normer, c'est-à-dire contraindre, en fait. Contraindre, c'est ça la norme. Pour eux, c'est ça qu'ils ont.
C'est important ce que tu dis, et puis le système capitaliste évolue dans le sens que tu décris, vers toujours moins de normes pour eux.
Bien
et
sûr.
Plus, évidemment,
oui.
de contraintes pour nous. Et donc, ben là, c'est important qu'on ait cette discussion. Alors, on n'est pas loin du tout du problème du dérèglement, du chaos climatique. Mais c'est bien c'est nécessaire qu'on ait à ce moment-là de notre existence sur la Terre, qu'on ait cette discussion. Parce que, on peut très bien, avoir. On n'arrivera jamais, on va pas avoir une seule institution où on serait tous dedans. Donc ça, c'est pas possible. On est tellement nombreux, forcément, chacun va s'engager là où il a envie de s'engager. Et puis toujours en sachant que il va falloir faire des concessions, mais des concessions existentielles, des concessions enfin pas des concessions, pardon, je dis le contraire de ce que je veux dire, pas des concessions existentielles, des concessions un petit peu institutionnelles et tout ça, mais il faudra qu'on se reconstruise avec un peu d'humour, un peu de générosité, beaucoup de bienveillance, parce qu'on aura toujours dans nos têtes, sinon on est foutu, la planète est foutue, on a des enfants, des petits-enfants, on n'a pas le droit, nous on a eu, enfin moi à mon âge, je suis née en 46, honnêtement j'ai pu construire mon futur, je voulais faire le métier que j'ai fait, j'ai rencontré l'homme que je voulais rencontrer, et je me souviens bien du prêtre amende auquel je disais mais jamais je rencontrerai l'homme que j'ai envie de rencontrer parce que je ne les rencontre pas là amende, mais il m'a dit ne vous en faites pas, il marche, je le sens, il est sur votre chemin et vous allez bientôt vous rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc avec Michel, il était sur les mêmes problématiques que moi, et c'est grâce aussi à ça, à ce couple, au fait qu'on était amoureux et complices au plus profond de notre relation, que nous avons réussi à faire ce que personne d'autre n'a fait, quoi.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Voilà. Alors, allez-y.
Il a sorti avant moi. C'est vrai que je connais depuis plus longtemps que Bénédicte. À qui je vis, j'ai connu avant. Oh là, je n'ai pas 37 ans, mais ça commence
à commencer. Oui, et puis. Alors, en fait, en tant que. Parce qu'en fait, c'est le peu de temps qu'on peut passer vraiment à conscientiser ce qu'on est. Enfin, moi, je sais que, bien sûr, que l'environnement, l'état de la... Même si c'est à des milliers de kilomètres, les forêts qui brûlent, des raz de marée, des populations totalement désemparées, hein, qui, de toute façon, à qui on peut... Enfin, moi, depuis ma ville ou ici mon pays, je peux pas faire grand chose pour elle. Alors c'est vrai que ce côté, on va faire un geste. Alors je vais essayer de plus manger ça, de consommer des produits qui viennent de pas trop loin.
Alors attends, on est d'accord sur le fait qu'il faut faire, je l'ai déjà dit, qu'il faut faire ces petits gestes, que ça peut être que bon pour nous. C'est ce que Orwell appelait la décence ordinaire.
Mais on n'est pas dans l'action qui va...
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi tu opposes les choses ? Parce que tu peux faire tes petits gestes tout en pensant à l'avenir de l'humanité qui est menacée par le système capitaliste, et puis te dire, moi, avec mes idées d'anarchiste, avec mes idées à moi de syndicaliste révolutionnaire, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice dans cette lutte collective pour ouvrir une perspective post-capitaliste.
Non, il dit ça, mais il le fait. Il remet ses crottes de chien dans la rue, crottes de chien des autres.
Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est... C'est parce que c'est comme ça que je...
Micro,
oui,
c'est bien.
Je le fais, en fait, on est deux, nous aussi.
Je voudrais quand même, à ce moment-là de notre émission, donner quand même quelques chiffres pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien qu'on est vraiment dans un capitalocène. Donc, toutes les enquêtes, que ce soit Lucas Chancel ou d'autres sources, vont toutes dans le même sens. Les 50% de la population la plus pauvre de la planète n'émet que 1,6 tonnes par an et par personne, ce qui ne représente que 12, alors qu'ils sont nombreux.
Hein, c'est du CO2. Hein.
Du CO2. Mmh. Ne représente que 12,8% de l'ensemble des émissions de CO2 par an. Si je passe aux 40% des classes moyennes, j'obtiens 6,6 tonnes par an et par personne, ce qui représente 40%, c'est facile à retenir, 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et si je passe aux 10% les plus riches, c'est 31 tonnes par an et par personne, mais qui représente 48,7%.
La moitié pratiquement.
Voilà. Mmh. Voilà. Et donc, si vous voulez, nous ne sommes pas du tout face à un anthropocène, mais face à un capitalocène. Et donc, la responsabilité est clairement établie. Et du coup, nous, nous devons prendre en tant que personne engagée, enfin engagée consciente, disons simplement de l'ampleur, de la gravité de ce rendez-vous historique avec lequel nous avons pour l'avenir de notre planète et de l'humanité, nous avons des réflexions à avoir entre nos différents engagements pour précisément moi, ce que je propose. Hein, moi, je veux dire, je suis qu'une force de proposition avec le travail que j'ai fait. Je ne dis pas du tout que j'ai raison, mais ce que nous avons appris dans le fonctionnement de la classe dominante, je ne vois pas pourquoi nous n'arriverions pas à le mettre, nous, en œuvre. Et ça serait un pied de nez quand même pas mal, hein, si on y arrivait. Parce que je peux vous le dire, hein, nos divisions font leur bonheur. Voilà.
Bah oui, mais le problème, c'est que ils détiennent aussi les moyens de communication, d'information, hein, peut-être au sens où Deleuze le disait, l'information, et du coup, ils nous imposent une manière de voir, de penser.
Bien sûr.
Et à une époque, dans les années 90, on parlait de pensée unique, maintenant on est peut-être passé à autre chose, mais c'est, ça va au-delà de la pensée unique, mais effectivement, ils nous imposent en fait un point de vue.
Oui, mais nous,
Alors, oui, mais comme on n'a pas les mêmes moyens on n'a pas les.
Regarde, vous êtes quand même deux héros ce soir. On pourrait tous chacun.
Avec trois, avec Bénédicte, parce que ça nous coupe les micros, il n'y a plus personne. Hein.
Oui, on est quatre, là, pauvres deux filles et deux garçons, crevés, et puis il va falloir rentrer chez nous, il va faire nuit, et tout, et on est là à se. Et non, il faut essayer de bien approfondir, de ne pas rester sur ses convictions ancrées et intériorisées. Moi, je pense que vraiment, c'est important. On doit pouvoir. S'unir pour le meilleur. On n'est pas obligé de penser pareil. Jamais, c'est impensable, de toute façon. Toute la science sociologique montre comment la construction, la constitution des habitus de tout un chacun, c'est vraiment quelque chose de très puissant, qui ne se change pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas être naïf. Mais on doit pouvoir, face à la gravité du moment que... la gravité du moment auquel nous sommes confrontés.
Alors moi, j'avais une question qui va aborder un autre qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on vient de terminer, mais il y a une introduction dans le livre, il n'y a pas de conclusion.
Oui.
Ça m'a... Alors, est-ce que c'est à t'avoir lu, je me dis, en fait, il n'y a pas de conclusion possible.
Ça nous l'écrit.
C'est une ouverture vers d'autres thèmes, d'autres combats, d'autres propositions, d'autres rencontres. Donc, c'est bien ça.
C'est-à-dire que je dirais qu'il y a 30... j'ai construit, à défaut de pouvoir construire un plan qui était impossible, puisque de la main gauche, je tenais un fait social total, l'oligarchie, donc une classe sociale au sens marxiste et bourdieusien du terme, et sur la main droite, je tenais le chaos climatique. Là aussi, un autre fait social total au sens de Marcel Mauss dans Essai sur le don. C'est-à-dire, alors, comment faire un plan ? Alors, je me suis dit, non, tu vas tenir tes deux faits sociaux totaux à partir de quelque chose qui est parfaitement compréhensible. Donc, tu prends la A69 et puis tu tricotes l'oligarchie et les conséquences de la A69 sur le dérèglement climatique. Et puis après, c'est à chacun, donc 30 pièces comme ça, très diversifiées. Chacun peut faire exactement ce que j'ai fait, puisque j'ai donné mes sources, j'ai travaillé avec la presse et les livres. Tout le monde peut le faire. Et ensuite, nous tous ensemble, on fera un immense puzzle qui sera trop chouette. Et en plus, ça vous oblige à de la vigilance oligarchique. Faire ce travail de compréhension vraiment de ce qui vous arrive, de ce qui nous arrive, est quelque chose qui est extraordinairement émancipateur. Et ce que nous recherchons, compte tenu de ce que nous avons à vivre, c'est véritablement une émancipation collectivement partagée. Du coup, c'est l'ensemble du livre, cher ami, qui est ma conclusion finale. Enfin, je ne vais pas mourir demain, j'espère, enfin pas en tout cas en rentrant ce soir chez moi. une émancipation collectivement partagée, et c'est l'objectif de ce livre. Et c'est ça, la conclusion, c'est le livre lui-même. Il n'y a pas une introduction et une conclusion, parce que c'était pas possible.
J'ai ma réponse. Faut que je digère tout ça maintenant parce que bah oui, non mais trop.
La convergence des luttes, parce que ça me, elle doit être internationale aussi. Parce
bien
que
sûr.
Et c'est déjà pas facile au niveau local, national. Ça se complique, alors international.
Oui, mais tu vas pas nous foutre des.
Non, moi, je suis là pour casser l'ambiance.
Non, mais c'est pas, moral, c'est pas ça. C'est que c'est pas juste de raisonner comme ça aujourd'hui. Il faut, au contraire, avoir l'esprit qui fonctionne pour trouver tout le temps des points communs, des liens, des coudes à coudes, des mains serrées, de l'humanité, de l'altérité, oui. Du partage. Voilà, on n'a pas d'autre choix, c'est comme ça.
Oui, alors, dans le syndicalisme révolutionnaire, il y a des relations internationales, de toute façon. Il y a des... une internationale, on va dire.
Il y a dans tous les partis, il y a toujours des pseudopodes internationales, dans les syndicats. Voilà, c'est pas...
Bien sûr.
Mais dans le livre aussi, hein, moi, il y a des chapitres, des fiches en tout cas, qui sont des chapitres qui m'ont retenu mon attention, notamment le chlordécone, le problème du chlordécone aux Antilles qui a tué les Antilles, enfin qui a tué les Antillais, et qui continue d'ailleurs.
Qui continue,
hein, parce qu'on s'en débarrassera pas comme ça. Hein, ça aussi, c'est une. Le fait que. Total Energy, alors Pouyanné, on l'a étrié souvent à l'antenne. Pouyanné, qui est quand même. C'est vrai. On va se faire poursuivre si je dis des bêtises.
Maintenant, tu as qu'à dire. Il est parfait.
Pour
l'oligarchie.
C'est un bon.
Ouais,
il est parfait. Il est parfait. Ouais. Et donc, son activité en Ouganda, le néocolonialisme, ça aussi, qu'on retrouve aussi dans les réserves, le chapitre sur.
Les réserves naturelles.
Les réserves naturelles.
Du livre de Guillaume Blanc sur le colonialisme vert.
C'est ça, oui. Donc, en fait, il y a des ramifications et. Alors pour nous, c'est très loin parce que c'est vrai que c'est cette oligarchie qui a un pouvoir énorme. Mais c'est moi ce que j'ai réalisé surtout, c'est que une poignée de personnes ont un pouvoir énorme. Et ce qui m'intéresse, c'est entre le zigoto ou la zigotote qui est au sommet. Ben il faut des rouages quand même pour nous donner des coups de pied aux fesses.
Bien sûr.
Les rouages. C'est peut-être aux rouages qu'il faut s'attaquer avant de parce que on décapite un Rothschild A, il va être remplacé par un Rothschild B, on fusille un Rothschild B, il va être remplacé par...
Le roi est mort, vive le roi.
Bah oui, tandis que il faut détricoter les rouages peut-être.
Ben j'appelle ça la sous-traitance oligarchique, c'est-à-dire les chiens de garde, les nouveaux chiens de garde, hein.
À la Nizan,
Paul Nizan pour les philosophes, les nouveaux chiens de garde, c'est Serge Halimi pour les journalistes. Mais bien entendu, sinon, de toute façon, c'est leur façon de se protéger. Mmh. Hein, c'est l'immunité, l'impunité et l'opacité. Et puis, nous, de nous dépatouiller avec tout ça.
Mais les ressorts, les mécanismes psychologiques de ces chiens de garde, c'est quand même c'est très troublant. Parce que comment on peut partager ce qui est impartageable. Bon, on ne peut pas partager avec l'élite, l'espèce d'élite capitalocène, et tous ces rouages, ces intermédiaires qui nous... Espèce de, en fait, des...
Mais ils sont suffisamment intéressés, je pense, économiquement. On jette des os, il y a des os qui sont plus ou moins gros, en fonction des...
Bien sûr.
Voilà, tu les achètes, les gens. Les rouages, faut les huiler.
Donc le mécanisme est psychologique.
Ça a été bien documenté par Yannick Kergoat et Gilles Balbastre concernant les économistes, concernant les journalistes par Pierre Carl et beaucoup d'autres. Dans le monde diplomatique, à Crimède, enfin je veux dire, on a quand même beaucoup d'informations pour comprendre comment ça fonctionne précisément. Et du coup, ils sont coupables, mais jamais responsables. Mmh. Hein, ils bénéficient d'une immunité et d'une impunité tout à fait...
Alors, c'est effectivement, c'est documenté, mais comment se fait-il qu'on ne dynamite pas, qu'on ne soit pas parvenu à dynamiter ? C'est-à-dire, par exemple, tu ne regardes pas la télé, tu ne lis pas n'importe quel journal, tu fais du tri, dès que j'allume la radio le matin, je suis énervé, enfin, je veux dire, parce que je trouve qu'ils racontent que des conneries pendant tout le temps où ça dure, enfin, ou des bêtises, des mensonges, ou une approche complètement biaisée des faits. On nous parle d'histoire en ce moment, beaucoup. C'est un moment historique, c'est un événement historique. Il n'y a rien d'historique. Il y a des faits plus ou moins liés entre eux. Après, c'est les historiens qui font l'histoire, plus tard. Comme aujourd'hui, ils font l'histoire d'hier. Donc, ça, c'est que des faits à qui on essaie de donner une importance par le discours que les médias portent. On est en permanence dans une espèce de surenchère, comme de course. Et on est, moi je vois les discussions au boulot, c'est des discussions qui sont des discussions d'abrutis. Donc on a l'impression que
il y a plus longtemps qu'il n'est pas sorti le mot.
Tu vois, il y a plus de conscience, tu vois, du sentiment de révolte et de oui, mais même ça, celui-là
je,
quoi. Mais
je pense que si tu veux nous tous et moi avec tout le monde, enfin je pense qu'on a une responsabilité. C'est ça ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. C'est la première fois, ça faisait longtemps que c'était dans ma tête, dans nos têtes à Michel et moi, mais là c'est de nous mettre aussi nous face à nos responsabilités et pas toujours être victime, bien sûr qu'on est malmené par le système capitaliste, mais on est quand même on est les plus nombreux, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Qu'est-ce que vous avez à dire contre cette maxime de Sénèque ? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Tellement, ça fait la troisième fois que je cite.
Je suis d'accord.
Oui.
Sauf que nous, on l'a mis en application.
On l'a mis en application.
Oui. Mais
on a pris des baffes.
Comment comment convaincre les autres? Oui. Parce que c'est pas juste dire, hey, patron, si vous ça. Des fois, ça se passe au tribunal quand même. Ça peut être sévère. On risque nos places de salariés.
Des licenciements, de l'argent qu'on n'a pas, qu'on est obligé d'investir dans un avocat pour. Enfin, je veux dire, c'est rude. On est pas nombreux, donc on n'a pas eu peur. Moi, j'ai jamais eu peur je mesure on a mesuré très consciemment les risques qu'on prenait en action syndicale.
Je pense qu'on les, on essaie de limiter en tout cas les dégâts.
Voilà. On les mesure quand même. Alors à la louche.
Oui.
À la louche, on les mesure à la louche. Mais à un moment donné, à trop réfléchir, à trop affiner, on finit par perdre l'espèce d'impulsion qui fait qu'on passe à l'action et qu'on essaie de renverser la table.
Vous avez raison. Je veux dire, là, ce soir, j'ai une posture différente de la vôtre parce que j'ai eu la chance d'avoir cette espèce de posture en aplomb qu'offre le statut de chercheur, où on est là quand même que pour travailler, dévoiler tout ce qui est caché, et notamment grâce à Pierre Bourdieu, honnêtement, auquel on doit beaucoup dans le travail que nous avons fait. Il nous disait tout le temps, que ce soit au Collège de France ou à l'École des hautes études, ou quand on se rencontrait, tout le temps il parlait pas d'oligarchie, peu importe comment il les appelait, je me souviens pas, les dominants étaient mobilisés sans arrêt pour masquer l'arbitraire de leurs privilèges. Et ça, c'est une phrase qui nous a toujours paru extrêmement puissante et que nous avons justement cherché à valider, à montrer à quel point ils sont toujours sur le pied de guerre. Ce sont des géants au pied d'argile, tout le temps sur le pied de guerre, qui ont la mémoire de tout ce qui s'est passé pendant les siècles et des siècles, avec les différentes révolutions, les différentes communes de Paris, Front populaire, etc. Dès que les gilets jaunes sont apparus, je peux vous assurer que dans les beaux quartiers, voilà, c'était la panique, quoi. Et donc, alors pourquoi est-ce que je dis tout ça ? Pour montrer que leur fragilité et comment ils sont mobilisés tout le temps. Et donc, ça donne le fait qu'ils sont présents dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale, tout le temps mobilisés à trouver des intermédiaires qui vont faire le job pour eux, qui vont prendre les coups pour eux. Une mobilisation qui est entièrement basée sur la cooptation sociale et sociologiquement, je trouve que c'est quand même assez fort, hein. Assez fort. Mais ils ont tous les moyens, ils ont... voilà.
Sur les forces de l'ordre aussi.
Oui, oui, sur les forces de l'ordre.
Ah oui, mais ça. Les États, les gouvernants et les forces de l'ordre aussi qui les protègent bien quand même.
Il y a quelque chose qui. Il y a un autre chapitre qui. Hein, quand même, bah, tous en fait, ils ont suscité mon interrogation et puis. Quand même ma surprise. C'est, puis, même si je le sais, le fait de le lire. Alors, c'est aussi le travail des intellectuels de nous produire ce genre d'ouvrage pour nourrir notre réflexion. C'est ça l'échange aussi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le temps, puisqu'on est à la mine. Au fond de la mine à pousser des wagonnets. On n'a pas le temps d'écrire des livres intelligents.
C'est pour ça que je suis là.
Exactement. C'est pour ça que... Donc, on est en plein dans cette idée
de transmission, d'échange.
Donc, alors, bien, j'ai pas tout compris non plus, mais les... et puis, alors, j'ai pas les bonnes lunettes, donc... Quand je vois mal.
Tu as mis tellement de post-it.
Oui, bah parce que j'avais tellement de choses à relever. C'est sûr, le fait, les fameux déplacements et la prévoyance face au chaos climatique des très riches, des ultra riches, qui achètent des terres dans des endroits improbables, enfin pour moi, Courbeau à Paris, c'est pas non plus le bout du monde, en Nouvelle-Zélande, hein, pour...
En Patagonie, en Nouvelle-Zélande, de partout il y a
des îles. Alors ça, les îles, on avait une petite idée, mais là, en Patagonie, en Nouvelle-Zélande, ouais, là je...
De partout où il y a des terres qui peuvent leur permettre de survivre, des bonnes terres agricoles, des bonnes terres qui... Et puis, surtout, en fait, ils se projettent dans l'avenir et ils se protègent à l'avance des catastrophes qu'ils ont eux-mêmes engendrées. Donc ils ont toujours une longueur d'avance, évidemment. Et en même temps, ils généralisent la financiarisation avec le capitalisme vert. C'est-à-dire en expropriant dans les pays les plus pauvres les populations autochtones, que ce soit au Brésil, que ce soit en Patagonie, que ce soit en Nouvelle-Zélande. Et du coup, le moment venu, ils pourront de toute façon encore faire des affaires avec la revente sur les marchés financiers de ces terres qui les protègent, en tout cas... potentiellement qui les protège, voire carrément dès aujourd'hui.
Oui, parce qu'ils se font construire aussi des lieux, des refuges.
Oui, des bunkers.
Pour en cas de montée des eaux. Alors, je sais plus que tu citais l'un d'entre eux qui avait calculé la hauteur, l'altitude. En cas de montée des eaux, il était encore à sec.
Ouais. C'est ça.
Pas bête quand même.
C'est pas... mais c'est pas seulement. Alors c'est pas seulement pour se protéger. Ça compte beaucoup, hein, bien entendu, pour se protéger de la montée des eaux, des incendies, des ouragans, enfin de tout ce qui est déjà là. Mais c'est aussi pour se protéger de la colère des peuples.
Ouais. Oui, parce que c'est quand même des coins assez reculés, assez isolés. Voilà. Du coup. Il va falloir qu'on court pour aller jusqu'à chez eux, qu'on rame.
Donc, oui, et en plus, là, je crois que c'est Thiel, c'est Peter Thiel qui est parti en Nouvelle-Zélande, hein, qui a acquis je ne sais pas combien, une dizaine, centaine de milliers d'hectares, propriété énorme. et qu'il a oui, construit une habitation comme ça pour se protéger, puis rapatrier éventuellement sa famille.
Oui, alors Mark Zuckerberg, lui, il a acheté carrément une île au large d'Hawaï, donc il a exproprié les populations, les quelques familles, ça ne devait pas être beaucoup, mais et puis là, il s'est fait construire vraiment une ferme bio qui garantit une nourriture bio pour 7 générations de sa famille.
Oui, il ne faut pas quand même donc c'est, pas que ça toxique avec des produits industriels.
J'ai trouvé que c'était intéressant de eux qu'ils puissent se projeter sur une planète qui sera en mauvaise santé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, parce que en fait, pour nous, enfin, le commun, l'alimentation, c'est aussi un signe de pauvreté. Quoi. Enfin, par rapport à cette échelle. Stratosphérique de la richesse multimilliardaire, l'accès au bio, l'accès aux produits non pesticidés, non traités, qui favorisent toutes les maladies.
C'est clair, ça je le montre bien à travers les différentes pièces de ce puzzle, c'est que vraiment les inégalités sociales, économiques et climatiques sont absolument ne forment sans chevêtre, ne forment là encore qu'un saucisson, c'est-à-dire que tout doit être mis en relation tout le temps. On peut pas isoler. Et c'est ça d'ailleurs le problème de comment est né, comment ils ont commencé à manipuler le problème du dérèglement climatique, du chaos climatique, en créant l'écologie, avec un parti écologique. Et du coup, ça y est, on était parti dans quelque chose de très inaccessible, parce que trop découpé de la réalité. Puisque c'est un chaos, c'est une menace existentielle sur l'habitabilité de la planète.
Et après avoir exploité, parce que comme ils sont tous issus, sont passés par les plus anciennes familles, dont les Rothschild par exemple, qui datent de la période pré-révolutionnaire, ont passé le 19e siècle à exploiter des travailleurs, de la terre, des usines, des mines, etc. On a bien crevé pour eux quand même, et pour leur permettre de s'enrichir. Ils nous ont fait aller à la guerre aussi pour leur défendre leurs intérêts, ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité. Alors, peut-être pas dans l'incapacité, mais en tout cas, il est très difficile aujourd'hui d'inverser la vapeur sur tout ce qu'ils ont et tout ce qu'on a finalement aidé à, par notre travail, notre labeur de soumission, à détériorer. Puisque, comme tu te rappelles, je ne savais pas, mais on mesure le réchauffement climatique par rapport à la période pré-industrielle.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un détail qui m'avait échappé, mais je lui dis, du coup, pré-industriel, c'est plutôt le 18e siècle, le début du 18e siècle, dans ces zones-là.
Non, c'est plutôt le début du 19e.
Ouais, c'est avant les manufactures, quand même. Alors, moi, les manufactures, je ne sais pas si ça pollue beaucoup.
Enfin, en tout cas,
avant la révolution.
Le gros du 19e siècle qui a lancé la révolution industrielle.
Donc, on y a participé. C'est aussi pour ça qu'ils nous emmènent dans leur délire de culpabilité. Parce que, si on regarde, c'est qui était au fond de la mine, qui était dans les usines sidérurgiques, qui était dans les champs, qui était. À la manœuvre dans le commerce pour vendre des étoffes, parce que sans nous, enfin nos ancêtres travailleurs, tous ces gens.
Enfin, c'est quand même massivement eux qui en ont profité, puisque les chiffres que j'ai donnés sont là. Et c'est bien un capital au sein, et les chiffres sont tellement énormes, les pourcentages, ça ne se négocie pas. La responsabilité de tout un chacun est réelle, mais elle peut être en tout cas atténuée, et elle est surtout presque négligeable.
Puis, de toute façon, oui, elle était... C'était par nécessité qu'ils ont travaillé.
Oui.
C'était pas un choix délibéré d'aller creuser les mines.
Non, puis d'ailleurs, il y a eu des réactions contre. Le mouvement syndicaliste révolutionnaire a été un mouvement de... qui va à l'encontre des intérêts de cette classe dominante. Alors évidemment, avec des moyens qui étaient ceux des camarades des différentes époques où il y a eu des actions, des soulèvements, même les dernières tentatives un peu d'émancipation qui, pour moi, reste la dernière grande révolution, c'est 1871 quand même.
En France.
Il y a depuis rien. Une espèce de soumission quand même assez pathétique. Donc il y a eu quand même des soubresauts, mais l'un dans l'autre, le gros de la population est quand même resté assez soumise à ses forces. La preuve, c'est la guerre de 14-18 qui aurait jamais dû éclater ou qui aurait dû finir en eau de boudin si
les travailleurs de tous les pays s'étaient unis.
Oui.
Ils avaient refusé Amy Cross sans l'air, en tout cas.
Bien sûr. Alors que ça a donné la plus grosse tuerie de pauvres de l'histoire. Une espèce de tuerie volontaire, quasiment volontaire au départ.
Un endoctrinement aussi des esprits par les gouvernements, par les dominants. Donc. Non ?
Oui, complètement. Oui. Complètement.
Donc, il faut qu'on multiplie encore les émissions, les tirages de journaux.
C'est une forme. Moi, je dis que c'est une forme. C'est comme l'ouvrage les riches contre la planète. D'abord, c'est de la résistance. C'est de la résistance. Alors, c'est dans le domaine de la recherche, dans le domaine intellectuel. C'est nécessaire. Je pense que encore une fois, je dirais même que c'est de salubrité publique, diffuser le savoir, ça, l'expliquer, le faire naître un peu de la sensibilité et puis de la compréhension de tous ces enjeux. Donc c'est aussi le but de notre émission de ce soir.
Bien sûr, des émissions c'est bien.
Je ferai référence à un autre bouquin qui s'appelle L'insurrection qui vient, dit télévision La Fabrique. Et oui, effectivement, ils expliquent, donc le comité invisible explique qu'il faudrait recréer des communes, puisque tu citais la commune de 1871, il faudrait recréer quelque part des communes, justement. En fait, ce qu'ils appellent des communes, c'est ce que nous, en termes de syndicalisme d'une manière générale, on appellerait les bourses du travail, tu vois, les unions locales. Et effectivement, il faut peut-être repenser tout ça et s'organiser en dehors de l'existant institutionnel, peut-être sortir des syndicats pour recréer quelque chose, une forme de commune entre tous les militants un petit peu actifs, volontaires.
C'est ce que disait Monique au début, retisser du lien.
Oui, et ça ne s'oppose pas.
Non.
Ça ne s'oppose pas, si tu veux, les syndicats et les partis politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ont existé dans l'histoire, ont apporté quelque chose dans l'histoire, parfois de très tragique, souvent de puissant aussi. Et aujourd'hui, mais le problème, c'est que, tu vois, on oppose, mais ça ne s'oppose pas du tout. Tout ce que tu décris, ces communs-là, mais ça existe de partout en France. Moi, si tu savais le nombre de rencontres que je fais dans tous ces endroits-là, qui vivent véritablement en solidarité, en altérité, voire en autogestion, enfin je sais pas trop comment, je veux pas non plus aller plus loin qu'il ne faut, mais et la diversité, c'est absolument extraordinaire, des tas de gens qui disent, ben moi j'ai pas envie d'attendre la fin du monde ou la révolution ou je sais pas quoi, je veux être en cohérence avec moi-même, ma vie va être en cohérence désormais avec moi-même, et ils sont très nombreux à le faire, et le jour où tout ce qui se passe à travers, je parle de la France puisque je travaille à cette échelle-là, si on arrive à bien se coordonner tous ensemble entre toutes les institutions plus ou moins verticales et tout ce qui existe à l'horizontale, mais ça, c'est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que moi j'ai la pêche, que j'ai le moral, malgré le fait que j'ai parfaitement conscience du rendez-vous historique auquel nous sommes confrontés, mais que honnêtement, il y a déjà tellement d'espoir à avoir, tellement de choses qui se passent de partout, que ça devrait plutôt nous entraîner dans cette solidarité-là, dans cette altérité-là, dans cette humanité de partage qui est le plus beau pied de nez que l'on puisse faire à ceux qui ne vivent que pour des profits, que pour de l'argent, et en détruisant toutes les formes du vivant, humain et non humain.
Reconstruisons le saucisson du...
Bon, ben, ça sera plus ou moins notre conclusion.
On a fait qu'une partie de tout ce que j'avais pris en note.
Le problème, c'est qu'il va être 21h dans 2 minutes. Et voilà, Bénédicte, il lance le chat. Ben, vous n'entendez pas avec moi quel casque.
Parlant de rencontres, deux rencontres. Moi, j'ai un ouvrage qui a été dédicacé. C'est un collector maintenant qui a pris. Je vais spéculer fortement. et c'est grâce à Martine qui vient parfois à l'antenne.
Tu le rachètes ?
Non, bah, toi, je ne le vends même pas en rêve. Qui a rencontré Monique à la Fnac. Et puis, oui. Et
C'était ça. C'était la sienne. C'était pas mon ancienne à moi. C'est pas grave.
D'accord, je me suis mélangé les pinceaux. Ouais.
Mais ça aurait pu.
C'est pas grave. Mais c'est,
D'accord.
Voilà. Je tenais à souligner que.
Bon, mais c'est super.
Sans Martine, j'aurais pas eu une des belles dédicaces.
Ah, mais c'est super. Voilà. Donc, c'est super. C'est super.
Je suis très heureux.
Bon, mais merci à vous.
Ben, merci d'avoir répondu à notre demande.
Oui, c'était l'invitation.
Un souhait de longue date de te recevoir. Une annonce ou pas ? Non, on la fera. Ouais, on fera dans 15 jours. C'est pas grave. Donc, on va peut-être rappeler quand même les éditions, le titre du bouquin.
Monique Pinson-Charlot, Les riches contre la planète, sous-titré Violence oligarchique et chaos climatique, aux éditions textuelles. C'est très revitalisant, une lecture un peu nécessaire, je dirais.
Mais bien sûr.
Ça n'apporte pas de solution, ça ne pose que des questions et de bonnes questions.
Il y a des solutions,
mais il faut aussi les faire vivre. C'est pas du clé en main,
ça, on est bien d'accord.
Il faut sortir les pouces du.
Exactement.
Oui,
c'est vrai.
Hein, je vais lancer le générique là-dessus, cette belle phrase.
on se retrouve le 2 juin pour une émission sur Élysée Reclus. Et puis, Monique, tu reviens quand tu veux.
Super.
Tu t'envoies un mail, tu dis, voilà.
Je veux revenir. Ouais. Laissez-moi rentrer.
on te remercie d'être passé. Merci Bénédicte d'avoir assuré la technique, Eric d'être arrivé pile poil à l'heure, et puis à vous tous et toutes de nous écouter, et à bientôt.
Merci à toutes et tous.
Plus de République, plus de Sénat et plus de Parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout,
vous alliez le faire gagner,
parce que c'est notre projet.
Vive la
révolution.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité, et c'est Le Proton se rebiffe, une émission sur les savoirs scientifiques et notamment l'écologie.
bonsoir. Ce soir, le Proton sur Bif rediffuse une émission qui a été enregistrée par Radio Aioli. Radio Aioli est une radio libre de la ville d'Avignon, si j'ai bien compris. Et bien entendu, Aioli, ça s'orthographie comme la célèbre sauce. Et Radio Aioli a eu l'excellente idée d'interviewer Félix Trélier, l'auteur du livre « Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle ». C'est donc cette interview réalisée par Radio Aioli que vous allez à présent écouter.
Un peu sur ton parcours, sur pourquoi tu as écrit ce livre et finalement ton intention là-dessus, avec, j'imagine, aussi la petite évocation de la quadrature du net et de Technopolis.
Merci à toutes et tous d'être venus en nombre malgré la fraîcheur et l'énergie qui est généralement pas au top en cette fin d'année. Surtout pour parler de choses aussi tristes que l'état du monde technopolicier. Mais du coup, ça fait chaud au cœur. Je suis donc Félix, chercheur en sciences sociales et membre de la Quadrature du Net depuis 2009. La Quadrature, c'est une association de défense des droits humains en lien avec l'informatique toujours plus ubiquitaire et déployée partout dans la société. À l'origine, la Quadrature, c'est une association qui a été montée par des militants du logiciel libre qui voulaient, en 2008, à l'époque où l'association se monte, défendre l'idée d'un Internet émancipateur, émancipé des États et des grandes multinationales. Espace de partage de connaissances et de liberté d'expression. Projet qui a un peu du plomb dans l'aile. Ce qui nous a conduit du coup à la Quadrature à travailler beaucoup sur les questions de censure d'Internet, de surveillance des communications, particulièrement à partir de 2013 et des révélations d'Edward Snowden, un lanceur d'alerte de la NSA, s'agissant des pratiques de surveillance massive des communications Internet. Sujet sur lesquels j'ai eu le plaisir de travailler avec professeur Didier Bigot qui est dans la salle. Sans vouloir nuire à ton anonymat, Didier, excuse-moi. C'est loupé. Et,